Et vous écoutez France Culture. Pour moi, la plus belle des odeurs du monde est celle de la pellicule neuve. Vous ouvrez la boîte pour la première fois et vous inspirez profondément. La nuit, cette même odeur merveilleuse remplit vos rêves. C'est grandiose. Ichiro Honda. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Actualité nippone ce soir dans Mauvais Genre qui se consacrera à Ichiro Honda, le père comblé de Godzilla, Rodan, Baran et Mothra à l'occasion de la sortie de la monographie que lui consacre aux éditions Rouge Profond, notre invité Fabien Moreau. DVD exposition second temps d'émission avec l'exceptionnelle série consacrée à la Nikatsu par Backfilm et l'art brut japonais en vedette à Paris à la Halle Saint-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui, comme tout France Culture en ce week-end, est repeint aux couleurs du Japon et nous nous consacrerons plus particulièrement amoureux des genres et du mauvais genre, je le répète, à Ichiro Honda et non pas Onichiro Honda, d'ailleurs notre invité va nous expliquer pourquoi, à l'occasion donc de ce livre qui paraît chez Rouge Profond, parle aussi de DVD, de manga et d'exposition, donc la boucle sera bouclée. Je suis donc en compagnie ce soir de Fabien Moreau, bonsoir.
Bonsoir François.
Alors Fabien Moreau, auteur aux éditions Rouge Profond de Ichiro Honda, humanisme monstre, on peut déjà évoquer rapidement la question du prénom, puis vous lui avez rendu son vrai prénom, parce que partout c'est autre...
Ouais, en général on le connaît sous le nom, surtout en France, d'Inoshiro Honda.
Voilà, Inoshiro Honda.
Ce qui n'est pas une erreur en soi, hein, parce que même quand vous voyez le générique de Ran où il est mentionné, on voit bien Inoshiro Honda, mais apparemment vous pouvez le prononcer de la manière dont vous voulez, mais on va dire que les dernières biographies et informations crédibles le mentionnent sous le nom d'Ichiro Honda, et lui-même apparemment préférait qu'on l'appelle Ichiro Honda. Voilà.
Donc vous avez souhaité, vous, faire plaisir au maître. Et...
Exactement.
Eh bien merci en tout cas pour ce livre, parce qu'il nous éclaire énormément. Je crois que c'est même la première monographie française qui lui est consacrée. Fausto Fazulo.
Bonsoir François.
Bonsoir.
C'est la première, oui.
C'est la première. On l'attendait depuis longtemps. Fausto, bonsoir. Donc votre actualité, est-ce que vous avez...
Mon actualité, je reviens de Corée, je suis enrhumé, je pars pour le Japon la semaine prochaine au Festival de Tokyo.
La semaine dernière, Antoine Guillou revenait de Chine et il était fatigué. Vous revenez de Corée.
Voilà.
Et enrhumé.
Donc je sais pas, peut-être que l'Extrême-Orient me réussit pas du tout, mais.
Et qu'avez-vous fait en Corée?
Qu'est-ce que j'ai fait en Corée? Des choses, plein de choses en fait. Je ne sais pas si je pourrais les dire à ce micro.
Des choses inavouables.
Des choses inavouables, bien sûr. Toutes les choses inavouables se font en Corée. Les vrais pervers le savent. Non, mais en tout cas, je suis très très content de pouvoir parler aujourd'hui, en tout cas, du livre concernant Ichiro Honda, puisque effectivement, c'est la première fois qu'une telle monographie sort en France, et il fallait qu'on en parle.
Le dernier numéro de Mad Movies était mis sous l'invocation de Dario Argento.
Indirectement, puisque c'est la nouvelle version de Suspiria qu'on a mis en couverture. Nouvelle version assez
visible
étrange et clivante. Le film sort au mois de novembre, donc très bientôt. Et je pense que le film fera débat chez les fans de Dario Argento et même chez les personnes qui ne sont pas forcément initiées au cinéma de genre.
Et la nouvelle formule de Mad Movies a conservé le public ancien et trouvé un nouveau public?
Elle a conservé son public, ouais, c'est juste un petit peu plus compliqué à travailler puisque c'est une formule plus libre, plus ouverte et décloisonnée et de fait, ça demande, on va dire, un peu plus de cogitus ininterruptus.
Très bien, en tout cas, elle a trouvé des lecteurs à un mauvais genre, j'en suis tout à fait sûr. Bonsoir Sixtine Aubert.
Bonsoir François.
Avec vous, on va se rendre à la Halle Saint-Pierre, mais avant cela, quelques mots d'une publication toute récente de Sam Boursier.
Oui, chez Amsterdam, donc une publication réunie de la trilogie des Queer Zones, donc un ouvrage militant pro-sexe, post-porn, où tous les auditeurs de mauvais genre trouveront, à mon avis, de quoi se délecter. Et puis sinon, je peux également vous annoncer la prochaine parution d'un article avec Antoine Michel, donc le créateur du site Fatal, autour quelques menus propos autour du Rape and Revenge. Donc sous peu, ça sera sur la page de Mauvais Genre.
Bon, on y reviendra peut-être parce que je crois que Christophe Bier en a parlé. Maxime Lachaud a démarré une collection justement sur ce thème des films de Bayou. La question du Rape and Revenge est prépondérante, Fausto.
Oui. Puis en plus, effectivement, Maxime Lachaud nous avait déjà gratifié d'un excellent livre sur le cinéma redneck. Et Rape and Revenge est souvent lié justement à l'environnement redneck. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire et découvrir.
Et ces choses-là seront dites à Mauvais Genre. En attendant, bien évidemment, nous avons rendez-vous avec Céline. Et ce soir, de qui, de quoi
Oh, je vous propose
une petite balade
ce soir, puisqu'on va faire un tour en Bourgogne.
En Bourgogne.
En se rendant à la Fabuloserie, ce musée dont je vous avais déjà parlé. Mm-hmm. C'est là où j'avais rencontré l'artiste André Robillard et ses célèbres fusils.
Fusils extraordinaires.
Eh bien, cette fois-ci, il ne sera pas question d'André Robillard, mais du lieu, le musée, de ses collections hors normes, avec Agnès Bourbonnais, maîtresse des lieux. Alors on lit ici, interdit aux voitures, interdit, allez les chiens au manège.
Voilà, donc ça c'est l'écriture de Petit Pierre. Donc Petit Pierre est un homme qui est né en 1909 dans la région d'Orléans et qui est né avec une maladie qui fait qu'il avait le visage un petit peu déformé et il était un peu sourd et muet à l'époque. L'un allait avec l'autre, bref. Par contre, il est allé très peu à l'école, et puis c'est sa sœur aussi qui lui a donné quelques rudiments d'orthographe, parce que il a construit ce manège donc pendant 50 ans de son existence. Il était garçon vaché. Le soir, quand il avait fini le week-end, il racontait la vie de la ferme avec des morceaux de tôle qu'il peignait et qu'il articulait. On va voir que ça bouge. Et du coup, il faisait visiter le dimanche au public. Donc c'était ses étiquettes étaient pour le public, savoir comment ça fonctionnait. Donc il a écrit les dimanches soirs à 3h, voilà, il ouvrait son manège, il le faisait fonctionner. Et on a encore beaucoup de gens qui sont allés sur place et qui viennent revoir le manège ici.
Ça couine, ça grince, ça racle, et c'est une vraie merveille que ce manège construit par Pierre Avezard, dit Petit Pierre. Un manège qui est composé de petites scènes de la vie rurale, de personnages animés, d'animaux facétieux et de véhicules en tout genre. Alors c'est vrai qu'on ne sait plus du tout où donner de l'œil ou de l'oreille tant il y a à vivre, et quelle chance que ce manège n'ait pas été détruit, puisque Petit Pierre l'a légué à la Fabuloserie en 1987. Le manège a ainsi été démonté pièce à pièce, classé, répertorié, puis remonté dans le jardin du musée. Tout ça grâce à Alain et Caroline Bourbonnais, qui sont les créateurs de ce lieu assez dingue, qui tient plus du grand cabinet de curiosité que du musée. Alors que ce soit dans la maison ou dans le jardin, on trouve la collection d'art brut d'Alain Bourbonnais, qui était architecte de renom, né en 1925 et mort en 1988, mais aussi inventeur de curieuses créatures nommées les Turbulents, une tribu qui hante le rez-de-chaussée de la Fabuloserie. Agnès Bourbonnais, sa fille.
Pourquoi Turbulent, enfin le créateur des Turbulents et du musée, donc et notre père. Voilà, donc voilà, là il y a un petit peu de bruit. Donc elle, c'est la reine des Turbulents, elle s'appelle Célestine, elle a trois visages, elle bouge, on peut même rentrer dans son ventre. Voilà. Et en fait, chaque objet a un moteur à ressort, voilà, qu'on remonte et après il bouge. Donc là, on a un autoportrait d'Alain Bourbonnais, voilà, qui s'appelle Tricyclo. Après, on a des costumes, parce qu'il a fait aussi des mises en scène de cinéma, hein, il a fait trois courts-métrages avec ses Turbulents. Là, c'est son canard turbulé. Et puis, voilà, d'autres, la récréation du petit roi, l'apinoscope, ils ont tous des noms. Et là, si celui-là, et c'est aussi, voilà. Purine magique. Donc ça, c'est le premier qui a eu c'est un personnage en bois avec des gros morceaux de bois et puis des engrenages qui fait que ce personnage a les seins qui tournent et y a un poids qui attire vers le fond, donc il s'agite, il bouge les bras, la tête, voilà. Et en général, il y a des dominantes roses, rouges et noires. Ça veut dire qu'effectivement, pour arriver à une prolifération comme ça ou une création, en fait, tout est bien rangé dans des boîtes en carton. D'un côté les dentelles, de l'autre côté des ustensiles en bois. On peut tirer, voilà, on tire comme ça. Là, il y a des cornes, des chiffons. Tout ça, c'était son matériel. En fait, pour arriver à cet art un petit peu fou, il faut quand même bien collectionner, trier, classer pour après savoir ce qu'on a. Voilà. La collection de sa moelle qui pouvait servir à faire des yeux. Voilà. Donc là, on a des couteaux de mer. Et ça, ce sont des coquilles Saint-Jacques. Et puis là, des huîtres. Voilà. Donc toutes sortes d'objets qui peuvent servir.
Par exemple, une huître, on peut s'en servir pour faire quoi ?
Pour faire un œil, une bouche, un bout de sein. C'est suivant l'inspiration.
La fabuloserie est ouverte de Pâques à la Toussaint. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour y faire un tour et c'est à Dissy, dans l'Yonne. Plus d'informations sur le site internet www.fabuloserie.com. Et si le temps vous manque, vous aurez peut-être la possibilité de passer à Paris, rue Jacob, où la fabuloserie a sa galerie. Y est exposée jusqu'au 17 novembre la correspondance en petites images d'Aniela Darkowska. Ce sont des dizaines et des dizaines d'images qu'elle envoyait à sa fille pour lui raconter son quotidien. Une correspondance picturale qui a démarré à l'âge de 50 ans, alors qu'Aniela Darkowska n'avait jamais dessiné ni peint de sa vie.
Alors effectivement, ça me rappelle aussi un livre dont j'ai parlé il y a de cela quelques mois et que je recommande de nouveau à tous nos auditeurs amoureux et amateurs de ce type d'art. C'est notamment le livre de Bruno Montpied aux éditions du Cendre qui est une énorme encyclopédie de tous ceux qui en France ont œuvré à la manière dont des personnages dont vous venez de nous parler. Il faudra un jour y aller quand même.
Oh, moi j'y retourne dès que vous voulez.
Bon, bah, on fera
en grande mission mauvais genre.
En grande délégation se rendra à la fabuloserie parce que tout ça donne vraiment envie. On pourrait faire d'ailleurs des manèges et des créations de ce type avec les personnages d'Ishiro Honda, Fabien Moreau.
Ah, y a de quoi faire, hein. Vu la variété de monstres et de créatures qu'on a dans ces films, il y a de quoi faire. Hein. Il faut faire un très beau manège.
Est-ce qu'il y a un Honda Land au Japon? Parce que vu la capacité de créer des lieux ludiques, commerciaux et médiatique autour des Walt Disney, je sais pas, Miyazaki, est-ce qu'il y a Honda à générer un Godzilla Land ou un...
Ça, il faudrait demander directement au studio Toho de faire leur Toho Land, on va voilà. dire, mais c'est vrai que la figure de Godzilla est présente un petit peu partout dans Tokyo via diverses statues et je pense que si vous allez dans le quartier d'Akihabara, vous avez moult jouets et moult DVD d'Honda que vous pouvez trouver de partout en fait.
Merci donc Fabien Moreau, on vous retrouve dans une minute et puis merci Céline et rendez-vous bientôt à la fabuloserie.
À tout bientôt, oui.
À bientôt. La musique d'Ifukube pour King Kong contre Godzilla, donc pour ouvrir à notre émission de ce soir, Mauvais Genre, consacrée au Japon et plus particulièrement à Ishiro Honda, dont Fabien Moreau, notre invité, donne la première monographie. Et merci aussi, bien évidemment, et une fois de plus, et ce ne sera pas la dernière, j'imagine, à Guy Astic et aux éditions Rouge Profond, à cette collection Raccord, de nous avoir procuré ce volume. Alors tout d'abord, Fabien Moreau, première question. Quand on voit la filmographie extrêmement imposante entre 1951-1975 de Honda, le nombre de films disponibles, on peut citer la très belle édition collector de Godzilla chez HK Vidéo, mais c'est pas, il y a très très peu de choses. Quelle est votre découverte, votre coup de foudre pour Honda? Il s'est passé comment, avec quel film, et depuis comment? Alors c'est passé la quête, l'enrichissement de la masse documentaire et l'accès, vous allez me dire, Internet, mais d'accord, mais enfin quand même.
Eh bien, on va dire que c'était il y a 20 ans. J'avais lu un article dans un magazine que je lisais qui s'appelait le magazine Marvel. Donc, il y avait une rubrique qui s'appelait, je crois, Ciné Horizon, si je me souviens bien. Et donc, il y avait un article annonçant les fameuses cassettes HK vidéo. Donc, c'était en 97-98.
Ah ben, au début de Mauvais Genre, effectivement.
Voilà. Date symbolique. Et à l'époque, je me souviens que j'attendais beaucoup le Godzilla de Roland Emmerich parce que le jeune garçon de 12 ans que j'étais à l'époque avait beaucoup aimé Independence Day à l'époque, voilà, la période des blockbusters des années 90. Et du coup, frappé de curiosité, je me suis dit que je voulais au moins voir le Godzilla original avant de voir le remake. Et donc, je me suis procuré la cassette. Et c'est vrai que j'ai vu ce film en noir et blanc qui m'avait un petit peu dérouté à l'époque, puisque c'était très ténébreux. C'était le premier film, enfin le premier long métrage en prise de vue réelle japonais que je voyais. Donc, c'était vraiment une découverte.
Fausto Fazulo, quelle était la qualité de cette VHS à l'époque, ce format respecté?
C'était la VHS HK Vidéo. Oui, ouais, c'était la meilleure façon de voir le film à l'époque en France. Mm-hmm. La collection, c'était une collection Kaiju Eiga, jaquette grise, un petit peu effet miroir, je crois.
Argenté miroir.
Quelque chose comme ça, ouais. Et à l'époque, c'était vraiment la meilleure façon possible pour l'amateur de cinéma japonais de se plonger dans cet univers-là, puisque c'est vrai, on en parlait un petit peu avant l'émission, il y a un énorme problème d'information, en fait, concernant tout un pan du cinéma japonais. C'est très très difficile d'avoir des informations en français, n'en parlons pas, en anglais un petit peu moins, quoique parfois c'est aussi délicat. Et paradoxalement, même parfois en langue japonaise, c'est extrêmement compliqué de trouver des informations ou des entretiens. Donc aujourd'hui, avoir une monographie sur Ichiro Honda en français, c'est une incroyable opportunité justement de découvrir et de redécouvrir une œuvre très importante et qui par ailleurs, et c'est noté dans le livre à un moment, a engrangé des millions d'entrées en France, puisque Ichiro Honda est le réalisateur japonais qui a fait le plus d'entrées sur le territoire français. Et le grand paradoxe, vous en parliez au début François, c'est que quand bien même c'était celui qui marchait le plus au box-office, aujourd'hui c'est peut-être l'un des réalisateurs japonais les moins représentés sur le marché de la vidéo.
Oui, tout à fait. Faut tout à fait raison, puisque c'est vrai que ça fait partie de ces grands réalisateurs commerciaux aussi qui ont fait le bonheur des salles de quartier dans les années 50, 60, 70, voire même début des années 80. Et c'était bien avant qu'on ait la reconnaissance commerciale, voire même publique, des Kurosawa, des Ozu et des Mizoguchi. Hein. Donc là, on parle vraiment d'une période où vraiment le cinéma commercial permettait de voir ce genre de film. Par exemple, un film comme Invasion Planète X, c'est un film qui a énormément marché. La Revanche de King Kong, c'est un film qui avait fait 1,5 million d'entrées en France à l'époque. De même que le premier Godzilla, qui était sorti chez nous dans sa version détournée américaine.
Oui, avec toi.
Mais c'est sorti en 57 et je crois que ça a plafonné le million de spectateurs. Donc du coup,
ça, on n'a pas l'idée de ce succès. Je veux dire, c'est un succès qui n'a pas fait mémoire.
C'est totalement fou, d'autant que à l'époque, il faut aussi se dire que le public qui voyait ces films-là les prenait en pleine face, si je puis dire, sans pouvoir décoder culturellement tout ce qu'il voyait. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une sorte de bagage analytique et une possibilité de recontextualisation historique. Mais à l'époque, les gens qui voyaient ces films-là, en fait, voyaient des films de monstres géants. Parfois, ils ne savaient même pas qu'ils étaient japonais. Et il y avait une découverte comme ça d'une fraîcheur totale et une façon de juger les films en rupture complète avec la contextualisation d'un système de production. Et du coup, je pense que d'une certaine façon, le pouvoir d'émerveillement à l'époque était total, puisque en fait, les gens ne pouvaient juger que ce qu'ils voyaient sans possibilité de recontextualiser.
Alors Fabien Moreau, vous lisez dans Marvel un article de Christophe Lemaire, qu'on salue.
Exactement.
Et là, brusquement, flash, vous voilà foudroyé par le souffle embrasé de Godzilla. Et après, comment les choses se sont-elles passées?
En fait, il m'a fallu plusieurs fois pour vraiment accepter le film, donc ce Godzilla original qui vraiment m'avait un petit peu surpris à l'époque, comme je disais, par sa noirceur. Et on n'était pas du tout dans des codes optimistes comme on pouvait le voir dans le cinéma américain. Donc j'y suis allé un petit peu à tâtons. Je me suis dit, bon, on va voir, je vais peut-être en regarder d'autres plus tard si ça me plaît. Et quelques mois plus tard, à la télévision, en été 98, sur le câble, je vois coup sur coup Rodan et Prisonnière des Martiens. Et on va dire que Prisonnière des Martiens, qui est ce grand film d'invasion extraterrestre en cinéma Mascope Couleur, m'a complètement soufflé. J'ai été vraiment ravi de voir ce film et c'est à partir de là que je suis vraiment entré dans cette dynamique de vouloir voir les films de Honda, acheter les autres films de la collection HK qui était sortie à cette époque-là. Et aussi, ça m'a donné la clé pour voir d'autres filmographies et d'autres styles de films fantastiques. Les films de la Hammer, les films de la Universal.
Alors vous êtes rentré dans le cinéma fantastique par Honda.
Le cinéma fantastique classique, ouais. Je suis rentré par Honda. Et c'est marrant parce que c'était une période aussi, à la télévision, on pouvait voir plein de choses sur le câble. Et le même été, 98, j'ai pu voir Le Monstre de Temps Perdu, Kim Kong, Attack of the 50 Foot Woman, La Créature du Lac Noir, ce genre de choses. Donc du coup, il y avait cette période un peu bénie où j'ai amassé beaucoup de films sur les monstres du cinéma. Donc c'est vraiment un très très beau souvenir, la découverte de ce Godzilla-là et de ce qui a suivi après.
Et Sixtine Audebert, vous êtes aussi fan de Godzilla. Quel est votre rapport à Godzilla ?
Oh là là, mais moi, c'est plutôt les dessins animés de quand j'étais petite. Donc
le club Dorothée n'est pas étranger à Godzilla.
Si je puis me permettre, les auditeurs ne peuvent le voir, mais vous portez aujourd'hui une sorte de peau de Godzilla. Hein.
Voilà. On saura tout. Alors on va s'intéresser, si vous le voulez bien, Fabien Moreau, d'abord à l'histoire d'Ichiro Honda, né en 1911, et on peut parler un petit peu de tout ce qui précède son entrée en cinéma, notamment sa famille, son père n'a pas une profession, si j'ose dire, ou une vocation anodine, et puis son vécu pendant la guerre et ses débuts dans le cinéma.
Alors oui, son père, donc moine bouddhiste, oui. Donc on va dire que la famille était vraiment placée sous l'angle de la prêtrise. Famille qui a déménagé ensuite plus tard, parce qu'il est né à la province, dans la province de Yamagata, donc plutôt une région un peu plus rurale. Donc ensuite, il déménage à Tokyo lorsqu'il est adolescent. Et c'est une fois en pleine zone urbaine qu'il découvre le cinéma. Et c'est vrai que le jeune Honda est
donc dans les années
20, oui, autour de 1900.
Donc cinéma 1925, muet.
Cinéma muet. Et surtout, il est frappé par les Benshi. Alors les Benshi, ce sont ces commentateurs de films qui sont placés à côté de l'écran et qui commentent et qui donnent, on va dire, le contexte émotionnel de chaque scène.
Ouais, ça vous en parlait d'ailleurs. Ouais. Il est marqué par un Benshi très célèbre parce que nous on connaît les pianistes qui accompagnent les films muets avec beaucoup de virtuosité. Mais là, il y a quelqu'un qui parle.
Oui, tout à fait.
Qui raconte l'histoire.
Il y avait des Benshi stars, hein, c'est-à-dire.
Oui. Voilà, justement, c'est son petit pas. Alors, de quoi il parle? Il raconte l'histoire, mais enfin, ça fait un peu pléonasme puisque l'histoire elle est en même temps sur l'écran. Qu'est-ce qui il essaie de transmettre la dramaturgie, je sais pas.
Ouais, on va dire que c'est une sorte de pont émotionnel entre le film et le public. C'est-à-dire qu'à chaque fois il va contextualiser l'action qui se passe à l'écran et il va essayer de d'inspirer des sentiments publics, genre ah oh là là le personnage vous attaque, ah oh là là le héros va-t-il s'en sortir, oh mon dieu il va être attaqué par derrière par 50 types, ce genre de choses, oh là là notre héros samouraï va être embusqué par 50 guerriers dans un tunnel, ce genre de choses. Ben voilà, c'est pour donner une vraie impulsion émotionnelle à ce qui se passe à l'écran. D'ailleurs, à la Cinémathèque, dans leur rétrospective cinéma japonais qui vient de commencer, la rétrospective a été inaugurée par un spectacle de Benshi, et voir ça en direct, en live, c'est vraiment sensationnel, parce qu'on est vraiment happé par le film et on est vraiment absorbé par l'émotion que diffuse le Benshi. C'est vraiment très étonnant comme façon de voir les films. Et puis bien sûr, c'est un métier qui a disparu avec l'avènement du parlant. Et comme le disait Fausto, effectivement, il y a des vrais Benshi stars qui sont devenus acteurs. Certains d'entre eux sont devenus des acteurs, oui, tout à fait.
Alors, donc, découverte du cinéma, découverte des Benshi, ensuite, est-ce que son intérêt pour, je dirais, le fantastique est premier, ou est-ce que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus tardif?
Alors, en fait, Honda, il découvre d'abord, il est surtout transcendé par la vision d'un film de Murnau qui s'appelle donc Le Dernier des Hommes. Mmh. Et donc, ça a été vraiment.
Fantastique.
Non, qui n'est pas du tout
un histoire d'un portier de grand hôtel qui dégénère socialement et qui ça n'a rien de fantastique. On est bien loin de Godzilla.
Tout à fait. Mais c'est vrai que de base, Honda n'avait pas forcément pour objectif de faire du cinéma de science-fiction. À la base,
il n'y a pas de lecture, de texte, de tableaux, de culture populaire fantastique, parce qu'il va s'en nourrir.
Non, pas tout de suite, parce qu'à l'époque-là, en tant qu'assistant à la Toho, donc qui est un studio créé au début des années 30, donc c'est PCL, donc Photochemical Laboratory, qui devient ensuite la Toho, il devient d'abord assistant réalisateur parce qu'il veut absolument travailler dans le cinéma. Et là, il fait ses armes auprès d'un réalisateur qui s'appelle Kajiro Yamamoto, qui est un des plus grands cinéastes japonais d'entre-deux-guerres, qui deviendra un réalisateur de propagande, surtout au début des années 40. Et Yamamoto a pris sous son aile trois assistants. Donc on a Ichiro Honda, on a Senkichi Taniguchi, qui deviendra lui aussi un cinéaste, vraiment un cinéaste encore un peu inconnu en France, mais vraiment un cinéaste très très intéressant, qui fera de très beaux films, et un certain Akira Kurosawa.
Oui, comme vous avez dit. Voilà.
Et donc, les trois vont faire leurs armes ensemble. Mais on va dire que le destin de Honda va être un petit peu perturbé, parce que donc il est mobilisé sur le front chinois. parce que donc il fait partie de l'armée impériale japonaise et donc il est mobilisé plusieurs fois en Mandchourie.
Donc il est au cœur de l'événement.
Il est au cœur de l'événement.
Et Kurosawa à cette époque fait quoi et...
Ah ben Kurosawa, lui, il est resté tranquillement au Japon.
C'est ça, donc c'est des années qui sont toutes gagnées pour le cinéma en ce qui concerne Kurosawa.
Et exactement, puisque petit à petit, lui, il a gagné ses galons d'assistant réalisateur, donc il a progressé très vite. Et je sais qu'il a travaillé avec Yamamoto sur Uma, donc le cheval en 41. Après, il fera la légende du grand judo en 43. Mais Honda faisant partie, étant mobilisé plusieurs fois, il fera plusieurs allers-retours entre le Japon et la Mandchourie jusqu'en 45. Voilà. Tout en essayant de construire sa vie de famille durant les allers-retours qu'il fait entre le Japon.
On peut dire quelques mots de certaines expériences qu'il a connues pendant la guerre.
Oui, alors. Il y a notamment le passage, je cite les maisons de confort, notamment, où il doit être dans une espèce de bordel.
Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous le BMC, voilà. Le bordel militaire de campagne. Bon. Et ceux dont vous parlez étaient connus pour leur sauvagerie, puisque c'est là où les Chinoises et les Coréennes étaient soumis à une sorte de servage sexuel effroyable.
Exactement, c'était un servage sexuel limite un peu à la chienne, de façon très industrielle, et Honda, d'une certaine manière, devait réconforter les femmes de réconfort, en fait. En plus, à une époque où la pression militaire est très intense, Honda doit obéir et pour éviter de se faire rosser lui-même en fait. Donc il n'a pas le choix, c'est un soldat comme les autres qui doit obéir à la hiérarchie. Une hiérarchie extrêmement dure parce que le Japon à l'époque est en pleine soif de conquête, donc il faut servir l'Empire et se taire quoi.
Hiroshima.
Alors en fait, pendant la fin de la guerre, Honda était prisonnier de guerre en Chine. Et il n'est pas au Japon lorsque ça se produit. Et c'est après la fin de la guerre qu'il est relâché et donc il doit rentrer au Japon. Et il passe par les ruines d'Hiroshima en 1946. Et donc il voit ce paysage complètement calciné, apocalyptique. Et c'est à partir de là.
Est-ce qu'il rencontre des victimes, des survivants ?
Non, je sais, j'ai peu d'informations là-dessus, mais on va dire qu'il est très marqué par cette esthétique. Enfin, l'état de la ville, le traumatisme, et le marque durablement. Et c'est à partir de là, de manière très inconsciente, que sa future imagerie se dessine dans sa tête.
Posto Fasulo.
Oui, c'est une imagerie. Les Hibakusha, par exemple, qui ont donc, sont donc les personnes survivantes de la bombe et contaminées. On retrouvera... cette imagerie-là dans le film qui fait la couverture d'ailleurs du livre. Moi, j'ai été très surpris. Ce sera d'ailleurs ma première question. Le choix de Matango en couverture, qui est un film dont on avait passé des extraits pour l'anniversaire de Mauvais Genre.
Certes.
Voilà, qui est un film plutôt à part en fait dans la carrière de Ishiro Honda. Enfin, qui fait partie d'une trilogie de films autour des mutants. Hein. Il y a H-Man et Human Vapor et Matango, qui est le dernier de la trilogie, si je me trompe pas.
Tout à fait.
Et qui est une sorte de film, ça va beaucoup vous plaire, François, une sorte de film vernien, entre Jules Verne et le Body Horror, en fait, et en même temps avec...
C'est taillé sur mesure.
Voilà, en même temps avec cette caisse de résonance historique, puisque les personnages qui sont contaminés et se transforment en champignons ressemblent à des Hibakusha, c'est-à-dire des personnes qui ont été irradiées. Donc, pour revenir à ma première question, c'est pourquoi, en fait, avoir choisi Matango, qui n'est pas le film le plus connu d'Ishiro Honda, dans le choix de cette couverture.
Alors en fait, pourquoi le choix de Matango ? Parce que déjà, je ne voulais pas de Godzilla sur la couverture, dans un premier temps.
Vous ne vouliez pas vendre plus ?
Non. Bon, je voulais éviter d'attirer encore plus l'attention.
Mais on va Godzilla,
on y reviendra peut-être après, les problèmes de copyright, enfin, c'est compliqué, en tout cas de manipuler de l'iconographie.
De taux, ouais, c'est un peu compliqué, mais on va dire que dans un premier temps, je voulais qu'on se concentre sur l'humain et sur la monstruosité de l'humain, sur les radiations, et c'est vrai que Matango était parfait pour ça, puisque finalement on parle d'une humanité qui est en train de devenir monstrueuse, et je voulais plutôt qu'on ait le focus sur des visages humains en train de réagir à quelque chose qui va les attaquer. Et vu que j'aborde beaucoup les thématiques de la terreur à hauteur d'homme, je voulais rester là-dessus dans la couverture, et je pense peut-être qu'objectivement Matango c'est peut-être le meilleur film d'Honda dans sa filmo fantastique, même de science-fiction, même si Godzilla est un petit peu son film vitrine.
Bien sûr.
Je pense que Matango, c'est le film qui a vraiment toutes les qualités.
Alors dans la carrière d'Ichiro Honda, bien évidemment la date tournante c'est 54 avec Godzilla, mais avant, comment se passe celui qui est l'ami de Kurosawa, qui a comme une, suivi une formation après-guerre assez importante, comment s'achemine-t-il vers la réalisation?
Alors en fait, donc il fait du travail d'assistant dans les années 30-40. Et en 49, Kurosawa lui propose d'être son premier assistant, réalisateur de seconde équipe, sur Chien enragé. Et il lui demande essentiellement d'aller tourner des plans dans le marché noir de Tokyo. Ce qu'on a fait...
L'histoire d'un policier à qui on vole son pistolet,
c'est le souvenir sombre. Exactement. Le Kurosawa préféré en plus. Et du coup, Honda va avec un caméraman tourner ses plans de marché noir. Donc on est vraiment dans du documentaire. Et on a certains plans dans le film, on voit Toshiro Mifune marcher dans le marché noir, et en fait ce n'est pas Mifune, c'est Honda qui est en train de marcher lui-même dans ce marché noir. Bon, bah tout le monde connaît Chien enragé. Puis ensuite en 49-50, il réalise des courts-métrages documentaires, notamment un film qui s'appelle Iseshima, qui est un court-métrage touristique destiné à promouvoir la préfecture de Mie, qui est une zone insulaire, et du coup il en profite pour filmer de très belles séquences de mer, puis ensuite des séquences sous-marines dans lesquelles il filme des plongeuses qui vont chercher des perles, enfin, ils vont chercher des huîtres, et donc dans les huîtres elles prélèvent les perles pour faire ensuite des bijoux. Donc c'est très très beau, on a vraiment de très belles images de ces femmes en train de plonger. Donc on filme des jeunes femmes très professionnelles et en même temps très très libres. En fait, c'est un très très beau court-métrage, c'est très touchant. Et puis ensuite en 1951, il réalise son premier film, donc un drame qui s'appelle La Perle Bleue, qui se passe toujours dans le même endroit, la préfecture de Mie, qui est un drame, j'en dis un drame qui se passe au bord de l'eau.
Ouais.
Donc on voit déjà que la thématique aquatique et océanique est très très forte chez lui dès le départ. Et à l'époque, il est révélé comme l'un des jeunes talents du studio Toho, alors qu'il a déjà 40 ans. Et ensuite, il réalise plusieurs mélos, comme La Peau du Sud, qui est un film sur...
Donc, au départ, documentaire, film d'entreprise, si j'ose dire, mélodrame, on n'est pas chez les mythes géantes et les...
pas du tout.
Et les lézards mutants.
Pas du tout, on est loin de ceci, même s'il y a une imagerie une imagerie autour de la Terre qui s'écroule, qui est déjà un peu dès le début, notamment dans La Peau du Sud, qui est un drame avec Takashi Shimura. Et on arrive en 54, la réalisation de ce qu'on pourrait appeler un blockbuster, qui est un film qui s'appelle le L'Aigle du Pacifique, qui est une biographie de l'amiral Yamamoto. Donc gros film de guerre, gros budget, gros casting.
Film hagiographique, j'imagine.
Pas vraiment, puisque c'est un film qui, contrairement au film des années 40, n'est pas du tout un film dans l'esprit propagande. Au contraire, on y voit un amiral Yamamoto qui se pose des questions sur la légitimité de la guerre, si c'est vraiment utile de bombarder les Américains. Donc du coup, on est vraiment dans une remise en question du grand film de guerre. Puis ensuite, il réalise Adieu Rabol, qui est plutôt un drame amoureux sur fond de guerre, qui se passe en Indonésie. Et puis en 1954 arrive son projet, on va dire, le plus casse-gueule, mais qui va faire sa carrière, c'est Godzilla.
Alors Godzilla, comment les choses se sont-elles organisées? Est-ce qu'on part d'une idée de scénario? Est-ce que l'on part d'une vision? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui enclenche la mécanique et qui aboutit à la création de ce personnage, enfin de cette créature qui est absolument mythique, enfin je veux dire, qui est une des grandes figures de la mythologie, la mythologie fantastique contemporaine. En plus, ce qui est intéressant, c'est 54, c'est quasiment au même moment que démarre la Hammer, le fantastique italien. Donc c'est très intéressant de voir que le réveil du fantastique mondial au cinéma se passe à peu près dans les mêmes années, aussi bien au Japon, en Italie qu'en Angleterre. Alors comment ça se passe au Japon?
C'est vrai qu'il y a une concordance d'éveil du fantastique et de la science-fiction qui est assez troublante. Hein. Même Jack Arnold fait La Créature du Lac Noir, en 54. Et c'est vrai que Godzilla aurait pu ne pas se faire, puisque c'est avant tout une question de planning, puisque le producteur en charge du film, Tomoyuki Tanaka, devait à la base réaliser un film en Indonésie, qui devait s'appeler Au-delà de la gloire, un film de guerre, encore une fois, qui rencontre des problèmes de production. Le film ne va pas se faire, finalement, qui est un film que devait faire Senkichi Taniguchi. Et du coup, le projet est annulé, et Tanaka a un film à sortir le 3 novembre 1954, et il n'a pas de film, il n'y a aucun projet. Donc là, il doit se décarcasser pour trouver une idée pour qu'il puisse faire un film rapidement pour la date butoir. Et lors d'un voyage en avion, il s'imagine une créature qui sort de l'océan. Et il se dit, ça pourrait être pas mal d'essayer de faire un film de monstre géant. Surtout qu'en 1953, il y a eu ce film américain, Le Monstre des Temps Perdus, un film de Gene Laurier avec les effets spéciaux d'Harry Ozen qui a fait un énorme carton, puisqu'il a été distribué au Japon peu de temps après. Et il y a eu une ressortie de King Kong en 1952-53, enfin, une ressortie globale du film. Et du coup, il s'est dit, pourquoi ne pas essayer de faire un film de monstre géant? Alors du coup, il s'est encardé avec Eiji Tsuburaya, qui était le grand Manitou des effets spéciaux de l'époque. Il lui a demandé, est-ce que c'est faisable de faire un film de monstre aujourd'hui? Et Tsuburaya a dit oui. Si on fait les effets spéciaux King Kong, c'est-à-dire en image par image, on peut le faire, mais ça va nous prendre 7 ans. Et Tanaka a dit non, mais c'est pas possible. On a même pas 6 mois pour faire le film. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il dit, la solution, c'est de mettre un cascadeur dans une combinaison de caoutchouc et lui faire piétiner des villes. Tsuburaya n'était pas très content de cette solution-là parce que lui voulait rendre hommage à King Kong et faire une belle créature en image par image, mais on va dire que le sort en a décidé autrement, et la création du Kaiju Ega, donc le film de monstre géant, vient de cette technique accidentelle. Et Honda n'était pas le premier réalisateur sur le projet. À la base, c'était son collègue Senkichi Taniguchi qui devait réaliser, mais Honda lui-même était sur un autre projet qui a été annulé, et du coup on lui a proposé de faire Godzilla, et il a accepté, alors que tout le monde lui disait, mais fais attention, c'est un film de monstre, tu vas gâcher ta carrière. Il lui a dit, non, mais si, il y a quelque chose à faire, faire une parabole anti-nucléaire autour du film.
Donc la parabole anti-nucléaire est voulue, elle est totalement intégrée au projet, c'est pas du tout une lecture seconde, ou c'est véritablement dans la feuille de route.
C'est dans la feuille de route, même si le premier jet du scénario avait un côté un petit peu plus feuilletonesque, un petit peu plus sérial, on va dire, et Honda, qui n'est jamais à l'origine de ces projets, mais qui a toujours retravaillé les scripts, a essayé de dépouiller toute la matière feuilletonnante du projet original pour aboutir à un film beaucoup plus authentique. On met l'accent sur le quotidien des gens, sur comment est-ce que l'arrivée de cette créature va finalement affecter aussi bien le mode de fonctionnement de Tokyo que ce village de pêcheurs au début du film, qui va être complètement chamboulé par l'arrivée de cette créature.
Fausto Fazulo.
Oui, parce que, comme le disait Fabien aussi au tout début de cette émission-là, vous disiez, Fabien, que vous aviez été extrêmement frappé par la noirceur du film, par le pessimisme du film. C'est important de le souligner aujourd'hui, puisque peut-être que tout le monde n'a pas vu le Godzilla originel, mais on n'est pas du tout dans une imagerie pop et décontractée, on n'est pas du tout dans un film de monstres pétardant. Déjà, l'apparition de Godzilla est assez tardive dans le film. On est vraiment à hauteur d'homme, et on est vraiment sur un point de vue sociologique, que ce soit à travers le village de pêcheurs, ou que ce soit justement dans la façon dont les autorités vont gérer la menace de Godzilla. Je pense que ce qui fait en fait l'intérêt, le sel et la qualité du premier Godzilla, c'est justement cette conscience du drame. Et cette conscience du drame, je pense que c'est quelque chose que Honda avait déjà au tout début de sa carrière, il a développé dans plusieurs films. Et là, en fait, il la pose à un pur film de genre. Du coup, il y a une sorte de, comment dirais-je, de mutation finalement qui s'opère entre quelque chose de dramatique et quelque chose de purement genresque. Et le film est vraiment le fruit de cette hybridation. Alors après, la franchise va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus pop, justement. Ouais, mais en tout cas, le premier film, est déjà magnifiquement photographié. C'est un film qui est sublime. Et surtout, il est d'une noirceur qui est quand même assez estomacante. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une sorte de B-movie popcorn, où on n'est absolument pas dans ce registre-là.
Oui, on est plus dans un cinéma de type germanique, c'est-à-dire
c'est un
noir et blanc de type Métropolis plutôt qu'effectivement la manipulation d'une sympathique maquette filmée. Les choses font qu'on est en 54, dernier film d'Honda en 75, il a 20 ans de cinéma devant lui, et comme toujours, les producteurs, et puis même lui-même, retourneront en permanence à ce filon de l'insecte mutant ou de l'insecte géant, puisque vont succéder toute une série, alors à la fois de nouvelles créatures et de croisements avec d'autres mythologies, d'autres figures mythiques, King Kong, Frankenstein, le Yeti. Donc là c'est l'élément fort de la carrière d'Honda.
Oui, j'ai envie de dire que la carrière de Godzilla, donc qui est aussi celle de Honda, c'est un peu le processus naturel du monstre de cinéma qui au début doit être effrayant et imposant, et petit à petit, ben on le tolère, on l'accepte, donc du coup il devient comme une sorte d'ami, puisque et puis l'icône s'impose au-delà du message. Mais c'est vrai que même si Honda va tenter lui de toujours continuer dans d'autres genres, il fera des biopics, il fera des films musicaux, encore des mélodrames. Donc il reste vraiment au sein de l'ATO, au sein du giron des studios. Ben on va dire que le mythe qu'il a créé va un peu le rattraper et va devenir un petit peu esclave du cinéma de science-fiction qu'il va quand même consolider au Japon, puisque toutes les formes de la science-fiction japonaise telle qu'elle était concevable à l'époque, Honda l'a abordé le spectre en entier, que ça soit le film d'invasion extraterrestre, le film d'astéroïdes qui va percuter la Terre, le film de mutants, le film d'homme invisible avec The Human Vapor, le film de mutants urbains avec l'homme H, qui est carrément un mélange entre un film de gangster et le film de mutants, et Matango, qui lui carrément est un survival insulaire avec des personnes parqués dans un vieux rafio qui vont devoir lutter contre des créatures champignonnesques, j'ai envie de dire, qui entrent le navire. Et en même temps, il y a toute une réflexion sur la parano, sur la confiance impossible entre les êtres humains. Et puis oui, c'est vrai que quand il aborde Frankenstein, ben on l'aborde sous le prisme du kaiju, et surtout on aborde pour la première fois dans Frankenstein contre Baragon, on aborde pour la première fois Hiroshima de manière très frontale. C'est-à-dire 20 ans plus tard, on peut enfin montrer
ouais, Hiroshima. Voilà. On peut décliner aussi la liste des créatures générées par le cinéma de Honda.
Ah ben on en a.
Il y a Godzilla. Mais alors Godzilla, on ne le voit pas naître puisqu'il sort tout armé des flots.
Oui.
C'est une sorte de. Il est inspiré un peu par des créatures préhistoriques, des animaux préhistoriques. D'ailleurs, c'est magnifiquement filmé. Les coups de queue gigantesques de nuit qui détruisent sans problème tout ce qui est la réalité urbaine. Mais quelles sont les autres créatures, Fabien Moreau?
Alors, on va dire qu'on a Rodan, qui est un pteranodon géant. Tout rouge, tout écarlate, qui est une très très belle créature, en tout cas dans son premier film, qui génère des bangs supersoniques en passant au-dessus des villes. On a Mothra, qui est la fameuse mythe géante, qui pour le coup, elle s'extrait d'un contexte de science-fiction. On est plus dans l'esprit du King Kong original, avec une sorte de créature qu'on va extraire du Nil. On est plus sur de la mythologie pure là. Ça, c'est un très très beau film, Mothra, qui va forcément affronter Godzilla quelques années plus tard. Bon, Honda récupère King Kong aussi, mais de manière plutôt comique, puisque King Kong est plutôt un monstre sympathique dans les films de la Toho. On a effectivement Matango avec ses hommes champignons. On a l'homme H, qui sont plutôt des ectoplasmes blobesques, on va dire, ces espèces de blobs un peu verdâtres qui s'infiltrent dans les canalisations. Après, on a Ghidra, le fameux dragon géant spatial à trois têtes doré, qui est vraiment peut-être l'une des créatures les plus marquantes qu'ait créée la Toho. On a également Maguma, qui est un morse géant qu'on voit dans Le Choc des planètes, qui est réveillé comme ça.
Alors, ce sont des créatures tirées du folklore japonais, inspirées par la bande dessinée, de pur fantasme. Quelle est la source de toute cette galerie?
En fait, la plupart des kaijus sont issus effectivement d'une imagerie préhistorique. Godzilla en lui-même, ça a été un mélange entre le T-Rex et le stégosaure. Et en fait, le mot Godzilla, le mot Gojira, ça veut dire gorilla, et Kujira qui veut dire baleine. Mais c'est vrai que dans la mythologie des yokai, donc les monstres mythologiques ruraux japonais, on a une baleine fantôme qui s'appelle Bakekujira, qui veut dire la baleine monstrueuse fantôme. Donc moi j'y vois une espèce de pour moi Godzilla c'est une sorte de descendant de ces créatures là aussi d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'après on va de plus en plus vers des créations fantaisistes et baroques, où vous avez par exemple Varan, qui est une sorte de lézard géant qui peut étendre ses bras comme un ornithorynque et voler. C'est très bizarre. On a Méganulon, qui est une espèce de chenille géante qui attaque les hommes dans Rodan. On a Gabara, qui est une espèce de chat reptile qui fait des miaulements bizarres. Et on a aussi des monstres à tentacules qui reviennent souvent. On a des poulpes, on a des méduses, des choses comme ça.
Voilà, tout un bestiaire à retrouver dans Ichiru Honda, Humanisme Monstre de Fabien Moreau. C'est aux éditions Rouge Profond. Voilà, les gens réellement cultivés auront reconnu la BO de Ghidra, le monstre à trois têtes. Les autres devront repasser leurs examens. Sixtine Audebert, alors revenir, je ne veux pas dire sur Terre, mais en tout cas sur la colline Montmartre. Paris, l'Halle Saint-Pierre, exposition sur l'art brut japonais.
Oui, l'art brut japonais. Alors bon, passons rapidement sur le concept d'art brut, donc concept inventé par Dubuffet, art des fous ou art des marginaux, en tout cas ce qui signifierait qu'on aurait un objet brut dont seul le regard du collectionneur ferait de l'art, et parce qu'à l'origine ce sont vraiment en fait des productions intimes, et d'ailleurs ce sont souvent des techniques artisanales qui sont utilisées par les créateurs avec des matériaux non nobles ou moins nobles, disons. Là, vous trouverez par exemple des techniques en terre cuite, des techniques d'affichiste avec des représentations sur bois, de la laine sur canevas, etc. Et donc ces productions, il faut bien comprendre qu'elles sont faites ici sans volonté de distinction ou d'originalité, et la plupart du temps elles sont faites justement compulsivement comme en série. Et paradoxalement, c'est parce qu'il y a donc une proximité entre le style, le trait identifiable de l'artiste, et le fétiche, l'obsession dans ce qu'elle a de personnel, qu'on peut parler d'art dans le cas de l'art brut. C'est donc cette manie, cette manie dans sa volonté désespérée de saisir le monde qui l'entoure et d'en traduire une opacité qui va créer la poésie. Et donc l'art retrouve une dimension anthropologique dans cette nouvelle disponibilité du langage qui se cristallise autour de points névralgiques de chaque société. Et c'est là que le caractère nippon se manifeste. Dans le cadre donc du tandem Paris-Tokyo, ils ont réuni, les collectionneurs ont réuni une cinquantaine de nouveaux artistes. Et on va voir surgir derrière les obsessions de chaque artiste, chaque créateur, des singularités culturelles. Alors par exemple, vous allez avoir des statues ou des jouets qui vont s'incarner sous forme de divinités aux yeux bridés, des masques avec des traits monstrueux, vaguement animaux, porteurs de rides imaginaires, et tout un peuple d'origami végétal. Autre point récurrent, vous allez avoir beaucoup de sujets qui vont traiter de la consommation, avec ce marketing très colorful typique du Japon. Par exemple, il y en a un qui reproduit indéfiniment des espèces d'émoticônes de nourriture à la queue leu-leu derrière un cheval entouré de compteurs, hein. Je ne comprends pas très bien, mais en tout cas, c'est absolument fascinant. Et il y a celui qui fabrique à la chaîne des frigidaires et des machines à laver en papier qui remplit avec des petits aliments qu'il a découpés dans les magazines. Et puis, peut-être plus troublant, hein, Fausto l'a rapidement évoqué tout à l'heure, il y a ces images des Ibakusha, donc de ces survivants du traumatisme d'Hiroshima et de Nagasaki, qui fournissent une espèce de témoin de la catastrophe et surtout de ses séquelles au quotidien, qui sont un peu comme des diaristes du chaos. Et donc c'est peut-être cette manière qu'a la sublimation de s'accomplir devant les yeux du visiteur, hein, d'un crayonné souvent très très enfantin. On va voir surgir sur tout un pan de mur les milliers de rues minuscules d'une ville qui fourmille comme une sorte de labyrinthe, mais qui serait sa propre solution, et des gribouillis très naïfs de véhicules qui sont où les blancs laissés vont être comblés, saturés par des idéogrammes qui cherchent finalement à expliciter absolument les choses. Et on sent que dans cette forme d'art, quelque chose se canalise, se concentre. Une forme de contact va s'établir avec l'extérieur. Et donc, c'est peut-être dans cette vraie nécessité de l'art brut qui a quelque chose de miraculeux qu'on doit absolument saisir. Et c'est donc à la Halle Saint-Pierre jusqu'au
10 mars. Donc, c'est à voir absolument. Fabien Moreau, vous y êtes allé?
Non, pas encore, mais je comptais y aller. Sissi nous a fait un superbe teasing, en tout cas. Ça donne vraiment envie d'y aller.
Voilà, je signale également, si vous aimez l'art brut, le très beau livre paru aux éditions Citadel Masno de Martine Luzardi, donc qui dirige la Halle Saint-Pierre, sur l'art brut. Un livre absolument magnifique, comme en font souvent les Citadel Masno. DVD Fausto avec la série
Avec beaucoup de choses. On était chez Lato avec Ichiro Honda. Là, on passe chez la Nikatsu, qui est le plus vieux studio en fait de production japonais. Alors, c'est pas un, ni deux, ni trois, ni quatre. C'est 10 films que l'éditeur Backfilm nous propose. 10 productions Nikatsu. On a une trilogie, la trilogie Woman Gambler. Et on a 5 films de la, alors je sais pas comment on dit quand il y a 5 films, en tout cas de la saga Stray Cat Rock. Et les deux films que je retiens ne sont pas les deux films des deux séries précitées. Ce sont deux autres longs métrages, Les Tueuses en colon noir, un film de Yasuharu Asebe, une sorte de pastiche, James Bondesque, très pop et ultra coloré, vraiment un film à voir avec des lunettes de soleil parce que vous allez vraiment en prendre plein la tête. Et aussi Blind Woman's Curse, qui est un film de Teru Ishii, qui là est un film assez passionnant parce que c'est un shambara gothique, une histoire en fait de femme yakuza interprétée par Meiko Kaji qui est frappée par une malédiction du chat, donc, et on se retrouve face à ce que Teru Ishii sait faire de mieux, c'est-à-dire des films littéralement mutants. Donc on retombe aussi sur Ichiro Honda, puisque là on a affaire à un shambara du type Ninkyo Eiga qui finit par être contaminé par une imagerie totalement baroque et eroguro, ce qui nous donne des moments absolument sublimes, et notamment le générique d'ouverture, puisque s'il y a bien quelque chose qu'on peut retenir des films de Teru Ishii, au-delà de leur qualité intrinsèque, ce sont vraiment leurs génériques. C'est des espèces de mini-films à part entière, et on parlant de générique aussi, si vous voulez découvrir très rapidement ce à quoi ressemblent les tueuses en colon noir, il suffit aussi de voir le générique d'ouverture qui est une sorte de scopitone totalement coloré qui nous rappelle à quel point le Japon des années 70 était en tout cas l'un des plus productifs et des plus fous en matière de cinéma.
C'est aux éditions Backfilm. Quelques mots sur Les Montagnes Hallucinées, tome 1.
Eh ben, on est sûr du monstre géant encore, puisque manga Lovecraft, forcément, Les Montagnes Hallucinées, adaptation de Lovecraft en manga, faite par Gutanabe, qui est un mangaka qui est malheureusement trop peu connu, qui avait été édité précédemment en France, The Outsider, déjà une adaptation de Lovecraft, un recueil avec plusieurs adaptations, dont une de Lovecraft. Ce qui est intéressant, c'est que, il le dit lui-même d'ailleurs, l'auteur, c'est très très compliqué de se frotter au cinéma à Lovecraft, puisqu'il faut forcément...
C'est plus que difficile, voilà. C'est carrément impossible.
Exactement.
Tous les projets s'effondrent les uns après les autres.
Dont Les Montagnes Hallucinées.
Bah oui, de Guillermo del Toro.
Voilà, l'avantage quand on est dessinateur, c'est qu'on n'a aucune limite de budget, donc lui, il a absolument compris ça. Et du coup, il ne se retient absolument pas dans son adaptation, et ce qui est assez intéressant, en fait, dans ce manga-là, et qui à mon avis peut aussi séduire ceux qui sont pas forcément amateurs de bande dessinée japonaise, c'est que le trait est vraiment extrêmement métissé et maîtrisé. Donc si vous êtes pas forcément fan on va dire du style manga un peu normatif, vous pouvez vraiment vous ruer sur ce titre là parce que c'est une proposition qui est extrêmement singulière, comme tout ce que fait Gutanabe.
En ce qui me concerne, je recommanderais, alors, enfin, Week-end Japon sur France Culture. Le Japon, avant d'y aller, il serait bon d'avoir de bonnes portes d'accès. Et je recommande très chaudement un livre paru aux éditions Les Moutons Électriques. Un livre, donc, de Julie Proust-Tanguy. Panorama de l'imaginaire japonais. C'est un livre luxueux, alors tout à fait rêvé pour Noël. Sous emboîtage, relié avec énormément d'illustrations en couleur et qui présente étape par étape toutes les grandes facettes et tous les grands aspects de l'imaginaire japonais, sur le plan à la fois folklorique, sur le plan de l'imaginaire contemporain, sur le plan, je dirais aussi, de la société. C'est un livre très réussi et qui fera évidemment, remplira parfaitement son office si vous voulez découvrir le Japon contemporain. On termine cette émission avec Jess Franco, c'est-à-dire avec Christophe Beer.
En 1962, l'horrible docteur Orloff, Variation des yeux sans visage, démontre la virtuosité d'un cinéaste madrilène, Jess Franco. La décade est prodigieuse, qui le voit moderniser les grands mythes du cinéma fantastique, insuffler un érotisme morbide et des ambiances sadiennes, créer de nouvelles figures, succubes marchant sur le fil psychédélique d'un cinéma bis expérimental, séduire producteurs et acteurs de renom. La décennie suivante, bouleversée par l'arrivée d'un érotisme frontal, lui offre la voie d'un cinéma encore plus libre, aux partis pris esthétiques parfois radicaux, qui signe, pour les critiques orthodoxes, la déchéance d'un auteur prometteur. C'est en France, dans l'indigence de production fauchée, qu'il trouve cette indépendance formelle. La ressortie par Le chat qui fume de la version intégrale des Possédés du diable, Lorna l'exorciste, témoigne au contraire de la vitalité décuplée d'un réalisateur pour qui le récit classique ne fut souvent qu'un prétexte à épuiser les fantasmes et à faire du cinéma une recherche sensorielle au bord de l'abstraction, au-dessus du volcan des pulsions. Il reprend ici le personnage du succube féminin de Necronomicon, Lorna Green, maîtresse d'un pacte faustien qui condamne un homme d'affaires à lui livrer sa fille le jour de ses 18 ans. En 1967, le résultat était arty, surréalisant, avec des errances somptueuses dans Lisbonne et Berlin et des dialogues littéraires. En 1974, Franco filme la laideur architecturale de la station balnéaire de la Grande Motte, les plantes insignifiantes au premier plan, les mobiliers standards et le papier peint hideux des chambres d'hôtel où loge l'équipe du film. De ce réalisme urbain déprimant naît une poésie du dénuement. Le doublage bâclé et la musique au maître, artifice pauvre de post-production, accentuent cette décadence. Aimanté par le corps des actrices, Jess Franco, caméra à l'épaule, frôle les courbes et cadre les toisons, s'abîme dans le flou d'un zoom. Double de son succube revenu déflorer une jeune femme et saper les fondations de la famille patriarcale, le cinéaste voyeur s'accapare le corps des comédiennes et s'aborde la progression logique du récit au profit d'un érotisme impérieux. Chevelure platine, bouche sang, les yeux fardés verts, Pamela Stanford est Lorna, fantomatique joueuse de casino, silhouette de mort, déambulant avec un hiératisme absent parmi les absurdes pyramides hôtelières de Jean Balladur. Guy Delorme est sa proie, viril antagoniste de Jean Marais chez André Hunebel, déterminé puis dépassé, s'anéantissant dans le sacrilège suprême comme le héros impuissant d'une tragédie antique.
Merci Christophe Bir, merci Fabien Moreau d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Il faudrait vraiment qu'un éditeur empoigne la chose et nous fasse une collection en DAB, Blu-ray, DVD.
Ce serait bien, au moins quelques titres, au moins Matango qu'on puisse voir ça.
Au moins Matango, voilà. Alors l'appel est lancé, au boulot maintenant, tous. Merci en tout cas d'être venu. Je recommande, nous recommandons très chaudement votre livre, Ichiro Honda, Humanisme Monstre. Et le titre dit tout. Édition rouge profonde, collection Raccord. Chez Backfilm, Back avec un H, la collection des films de la Nikatsu, notamment Blind Woman's Curse et Les Tueurs en Colon Noir. Aux éditions Kiun de Gu Tanabe, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées, c'est un tome 1. Visible à la Halle Saint-Pierre à Paris, donc jusqu'au 10 mars, 2 rue Ronsard dans le 18e, Art Brut Japonais. Et puis le très beau livre de Julie Proustangui, Panorama de l'imaginaire japonais, c'est aux éditions Les Moutons Électriques. Et puis Sixtine en a parlé en ouverture d'émission, Queer Zone, la trilogie aux éditions Amsterdam de Sam Boursier. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Philippe Marcher, Sam Boutata, Claire-Martin Dugard, Sixtine Audebert, Fausto Fazulo, Christophe Biré, François Angelier et Céline Duchesnet. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Ouf, on se retrouve la semaine prochaine, je serai à Nantes avec Laurent Polleré. Nous recevrons donc Gilles Dumay, un de ses auteurs, pour la nouvelle collection Imaginaire chez Albin Michel. Et d'ici là, bonne nuit à tous.